France Info.
Et à la une, Noël a découvert, on le disait, le réveillon coûtera peut-être un peu moins cher, mais de nombreux Français finissent dans le rouge pour payer les cadeaux. 4 sur 10 font même un crédit. À la une également ce matin, une plainte déposée contre la Banque de France, accusée de complicité dans le génocide au Rwanda. Le TGV, nouvelle génération, qui arrivera en retard en gare, 6 mois de retard. Et puis les handballeuses françaises qui se qualifient pour les demi-finales du Mondial. C'est sans doute le moment de l'année où l'on fait le plus de folie dans les magasins. Et c'est celle où de très nombreux Français rencontrent des difficultés financières. Nous le disions, 4 Français sur 10 vont financer leurs dépenses de Noël par du crédit. C'est le résultat d'une étude que vous révèle France Info. Étude flash pour la société de courtage Imancy, Audrey Morellato.
80% des sondés justifient bien leurs dépenses de Noël par l'envie de faire plaisir, et c'est tant mieux. Mais 59%, bien plus que la moitié, ont peur d'offrir un cadeau moins cher que celui qu'ils pourraient recevoir. Peur de donner l'impression d'être radin, c'est le terme utilisé dans l'étude. Face à cette pression, les dépenses peuvent s'envoler. 56% des Français seront encore en train de payer leurs achats en mars ou avril, soit pour rembourser un crédit ou leurs agios suite à un découvert, soit parce qu'il leur reste des versements du fameux paiement en 3, 5, 10, 20 fois sans frais. Et pour faire face à ces difficultés qui se reportent en début d'année, presque la moitié utiliseront l'argent reçu en cadeau de Noël, justement pour rembourser ce qu'ils ont acheté.
Merci Audrey Morellato. On retrouve le détail de cette étude sur franceinfo.fr. Une vingtaine d'interpellations dans le scandale des poupées sexuelles à l'image d'enfants. Rappelez-vous, on en trouvait en vente sur la plateforme Shein, comme sur d'autres sites d'e-commerce. Une vingtaine d'hommes ont donc été interpellés à Toulouse, Rouen ou encore Mulhouse, soupçonnés d'en avoir acheté une. Ils encourent 5 ans de prison. La Banque de France a-t-elle permis aux génocidaires hutus de se procurer des armes au Rwanda pendant le massacre de 1994? C'est ce que dénonce le collectif des parties civiles pour le Rwanda. Une plainte pour complicité de génocide et crimes de guerre vient d'être déposée au tribunal judiciaire de Paris. À Marie Dupin, les plaignants soupçonnent la Banque centrale française d'avoir exécuté des transferts de fonds douteux.
Oui, entre mai et août 1994, en plein cœur du génocide, 7 virements sont effectués depuis le compte de la Banque nationale du Rwanda, domicilié à la Banque de France, pour un total équivalent à 450 000 euros. Selon des experts de l'ONU, ces transferts sont destinés à l'entreprise Alcatel et à plusieurs ambassades rwandaises à l'étranger. Et selon Alain Gauthier, à l'origine de la plainte, ils ont pour but d'acheter du matériel militaire.
Actions ont été organisées par l'ambassade du Rwanda en Afrique du Sud, en Égypte, en Éthiopie, pour acheter des armes. Des fonds avaient transité auprès de la société Alcatel aussi pour acheter des téléphones satellitaires, pour permettre aux soldats de communiquer entre eux, pour mener à bien le génocide.
Et selon lui, la Banque de France ne pouvait pas ignorer ce qui était en train de se passer au Rwanda.
Ce sont des massacres généralisés au niveau de la Banque de France. Il est impossible que personne ne sache rien.
Contactée, la Banque de France indique ne pas avoir à ce stade retrouver trace de ces opérations dans ses archives. Le collectif des parties civiles pour le Rwanda compte aujourd'hui sur la justice pour faire toute la lumière sur ces transferts.
Marie Dupin de la cellule investigation de Radio France. La prix Nobel de la paix Maria Corina Machado est finalement bien arrivée en Norvège, à Oslo, où elle devait y être hier, normalement, pour la remise du prix, mais elle est finalement arrivée avec quelques heures de retard. Elle qui a dû quitter le Venezuela, l'opposante y vit dans la clandestinité. Elle n'était pas apparue en public depuis 11 mois. Le portable sera-t-il banni au lycée en France à la rentrée prochaine? Sans doute, annonce Emmanuel Macron. Mais alors, serait-ce utile? Allons en Angleterre, où cette mesure s'applique déjà depuis plusieurs années. 90% des lycées ont interdit le téléphone portable, selon un rapport commandé par la commissaire aux droits de l'enfant. Gaëlle Joly, vous êtes notre correspondante à Londres et vous vous êtes rendue dans l'un de ces établissements à Southwark, c'est au sud de la capitale.
Turn off your phone and put it in a little pouch.
Chaque matin, lorsqu'il franchit les portes du lycée, Elieno, 16 ans, éteint son portable et le range dans son sac sans brancher. Il s'est habitué.
Some people do, il y en a qui vont le rallumer aux toilettes parfois, mais moi je le fais pas.
It's not like the worst thing in the world.
C'est pas la fin du monde. Évidemment, je préférerais avoir mon portable, mais ça nous distrait de ce qui nous entoure.
Rocco, 15 ans, préfère même la vie sans téléphone portable.
Firstly, it distracts me from
moi, ça m'empêche de me concentrer sur mes études, sur mon apprentissage, d'atteindre mon meilleur potentiel, apprendre autant que possible. C'est très utile, cette interdiction.
Et les bénéfices sont nombreux, estime le proviseur du lycée, Michael Baxter, qui a mis en place cette politique stricte.
Vous réduisez le manque d'attention, vous réduisez le manque de sommeil. On a vu les bénéfices sur l'apprentissage. Et sur le plan social, les élèves sont bien plus à l'aise pour communiquer en face à face.
Le proviseur souhaiterait que le gouvernement légifère pour une interdiction totale du portable à l'école, au collège et au lycée. Pour le moment, en Angleterre, cela reste à l'initiative du chef d'établissement.
Gaëlle Joly à Londres pour France Info. Le TGV M, le TGV du futur, arrivera finalement un peu plus tard que prévu en gare. 6 mois de retard pour le train à grande vitesse de 5e génération. Jusqu'à maintenant, jusqu'à peu, la SNCF évoquait début 2026 pour l'entrée en service, mais la compagnie décale la mise en service commerciale des 4 premières rames est prévue le 1er juillet prochain. La SNCF évoque des retards de livraison d'Alstom, le constructeur, mais aussi des délais d'homologation incompressibles, Raphaël Ebenstein.
Alstom a-t-il des problèmes de production dans ses sites de Belfort et de La Rochelle, ou bien les tests sur les rames d'essai du TGVM fournis à la SNCF ont-ils été trop longs, empêchant de déposer dans les délais prévus la demande d'homologation à l'autorité européenne du rail? Les versions diffèrent quelque peu selon plusieurs sources proches du dossier. Mais une certitude donc, même si la SNCF aura bien 6 rames à disposition en mai prochain, elle se réserve 2 mois d'essais supplémentaires pour la prise en main et les derniers réglages avant de faire monter des voyageurs à bord. D'où sa décision de ne mettre en service que 4 rames au 1er juillet 2026 sur la ligne Paris-Marseille. Une décision prudente, mais sans doute douloureuse, alors qu'elle manque de place dans ses TGV lors des grands départs de l'été et que le TGVM doit précisément lui permettre de transporter 20% de passagers en plus que les trains actuels.
Raphaël Ebenstein, spécialiste transport de la rédaction de France Info. Du football avec de la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain qui cale. Match nul, 0 partout pour les Parisiens tenant du titre en déplacement à Bilbao en Espagne. C'est la première fois en 10 ans que le PSG termine un match de la compétition reine européenne sur un score nul. L'équipe de France de handball, elle verra les demi-finales du Mondial. L'équipe de France féminine, les Bleues ont survolé le quart de finale. Elles se sont imposées à Rotterdam aux Pays-Bas face au Danemark avec un écart de 5 buts. C'est une revanche par rapport à ce qui s'était passé l'année dernière au championnat d'Europe. Et c'est une métamorphose pour les Bleues qui se sont transformées en à peine 2 jours. Ce succès 31-26, Jean-Pierre Blimeau, il n'a pas été long à se dessiner tellement les Françaises étaient à la hauteur des espérances.
Le match commence à peine et le contraste est saisissant. Oubliez la défaite peu reluisante de lundi face aux Pays-Bas et l'élimination par ces mêmes Danoises en demi-finale du dernier Euro. Les coéquipières de Léna Granvaux, hier soir, ont sorti le grand jeu.
On s'est posé les bonnes questions, on a dit qu'est-ce qu'on avait mal fait contre les Pays-Bas et aujourd'hui on a un groupe incroyable, archi jeune, mais qui a la force de caractère et la force de tout ce qui va avec.
Mention spéciale à Sarah Bouctit, 8 buts sur 8 tentatives, du grand art pour la pivot et pour toute l'équipe de France.
J'ai travaillé, j'ai rien lâché depuis que je suis en équipe de France. J'ai aussi des passeuses exceptionnelles dans mon équipe qui arrivent à me trouver correctement et on avait aussi établi des stratégies. Donc on a juste travaillé sur tout ce qu'on avait préparé et ça a fonctionné.
La priorité pour les Françaises était de retrouver de l'efficacité et surtout d'être beaucoup plus rugueuse, avait martelé le sélectionneur Sébastien Gardiou. Mission accomplie et sourire retrouvé.
Je ne sais pas si ça nous amènera plus loin. Elles savent que j'aime quand elles sortent du terrain avec le sourire et aujourd'hui elles sont sorties du terrain avec le sourire.
Et voilà les Bleus de nouveau en pleine confiance et clairement favorites de leur demi-finale contre l'Allemagne.
Merci beaucoup Jean-Pierre Blimeau. Et puis Christine, c'est un champagne d'exception que vous pourrez peut-être vous offrir aux enchères aujourd'hui si vous allez au Danemark, c'est pas la porte à côté.
Oui,
Magnum de Dom Pérignon 1961, spécialement conçu pour le Royal Wedding de 81, le mariage royal entre Charles et Diana, d'où le God Save the King que l'on entend en ce moment. Alors ce champagne, j'ai l'impression qu'il n'aurait pas vraiment porté chance pour la suite de leur mariage. Et puis en plus il faudra débourser entre 60 et 80 000 euros selon les estimations des commissaires priseurs.
Il va falloir le déguster.
Le déguster. Et à 5h09, on va déguster votre météo, Christine.
Là là.
Oui, on va déguster avec un temps nuageux qui reste calme quand même.
Oui, calme. Pas trop de pluie cet après-midi en Poitou-Charentes. 20 Vendée et Bretagne. C'est surtout là que les pluies circuleront. Elles iront vers la Normandie et Paris en cours de soirée. Nous avons ces nuages donc qui restent en place. Le soleil apparaît quand même du sud-ouest au Massif central, puis également sur la Corse et la région PACA. Et puis nous avons froid ce matin. 4 degrés à peine à Rouen, à Alençon, 7 à Paris, 6 à Rennes. Le plus doux vers Bordeaux, 11 degrés. On a 12 à Nîmes et 13 pour Montpellier.
God save Christine, il est 5h10.